Voilà, c'est parti. Donc aujourd'hui, on avance dans le mystère pascal, et à partir du deuxième volet, puisqu'on a vu la crucifixion la fois dernière, donc ce deuxième volet, la résurrection, et en y ajoutant quand même, à la suite de la résurrection, la confession de foi en Jésus-Christ ressuscité. Donc, parlant de la résurrection, on ne peut pas dissocier la résurrection de la mort. Parce que la résurrection, d'abord, est la conséquence de la mort du Fils. Et donc, la mort et la résurrection font partie d'un seul et même mystère. D'abord, ce mystère atteste la manifestation de Dieu, le Père, et atteste la filiation du Père et du Fils, puisque la résurrection concerne en premier le Fils. Après, nous serons entraînés nous-mêmes dans cette même résurrection, mais voilà. Pour l'instant, on est vraiment dans cette filiation divine du Père et du Fils, et dans le fait que l'on ne dissocie pas le mystère. Donc cette manifestation de Dieu, elle se manifeste déjà à la croix, on en avait parlé, me semble-t-il, déjà par le centurion, souvenez-vous, hein, qui s'exclame vraiment « cet homme était le Fils de Dieu ». Et à la manière dont Jésus meurt, c'est cela qui lui fait dire cette phrase qui a presque valeur de proclamation, presque de kérigme, avant même le kérigme des apôtres. Donc la mort et la souffrance de Jésus lui font vivre l'extrême de la condition humaine, et la résurrection va lui faire vivre l'extrême de l'amour du Père pour le Fils. C'est un amour en acte. Et donc c'est la force en acte qui vient ressusciter le Fils. Voyons maintenant le point 1, qui est la dimension trinitaire de la résurrection. De la même façon que l'incarnation nous permet de comprendre la Trinité, la résurrection du Fils, c'est-à-dire du Père ressuscitant le Fils, nous permet d'entrer aussi dans le mystère de la Trinité, puisque le Fils est ressuscité par le Père, par la puissance de l'Esprit. Donc il y a une filiation, une relation trinitaire qui est inscrite dans la Trinité. Donc à la résurrection, le Père donne le Fils et le Fils se donne lui-même au Père. Le Fils donne sa vie en la livrant et en se livrant. Et puis sur la croix, souvenez-vous, le Fils va rendre l'Esprit au Père. Entre tes mains, je remets mon Esprit. Et le Père ressuscite le Fils avec ce même Esprit, cette même puissance de l'Esprit. Il ne s'agit pas d'un autre Esprit, on est vraiment dans une relation trinitaire, une filiation où l'acte de l'Esprit est à l'œuvre, à l'incarnation et à la résurrection. Cela signifie qu'il y a dans la relation trinitaire un mouvement, une circularité, pourrait-on dire, entre les trois personnes de la Trinité. Et c'est à partir de cette relation, de cette filiation, que l'initiative du Père, cette volonté du Père, cette action de l'Esprit ressuscite le Fils. Et on peut lire ça dans Romains chapitre 6, verset 10, dans cette action de ressusciter le Fils, bien va opérer le passage, nous dit Romain, enfin dans l'épître aux Romains, le passage à une forme d'existence qui a laissé la mort derrière elle, une fois pour toutes. C'est cela que nous dit Paul. Une forme d'existence qui a laissé la mort derrière elle, une fois pour toutes. Le Christ a donné sa vie une fois pour toutes. On appelle ça un néphapax. Donc la résurrection de Jésus, la résurrection du Christ, c'est une résurrection unique, une fois pour toutes. Mais dans le sacrement de l'Eucharistie, qui est le sacrement de la mort et de la résurrection du Christ, le sacrement est réitérable. La mémoire, le faire mémoire est réitérable. Parce que nous rappelons cette mort et cette résurrection. Alors je vous disais en début que la mort et la résurrection font partie d'un seul et même mystère. Mais nous devons ajouter aussi l'ascension, la Pentecôte. Bien sûr, ce sont des moments distincts. Mais ce sont des moments, même s'ils sont distincts les uns des autres, qui sont liés les uns aux autres. Ils font partie, on dirait, d'une même économie. Ils font partie d'un seul et même événement. Un seul et même événement de la manifestation du Père en son Fils Jésus-Christ. Et donc cet événement de manifestation, il a un événement, il a un, pardon, une dimension éminemment transcendante. Parce que lorsque le Fils ressuscite dans le monde, et même dès l'instant où le Père incarne le Fils, où le Verbe s'est fait chair, dès l'incarnation et jusqu'à la résurrection, il s'est placé, il s'est intégré, il s'est inséré, je ne saurais comment dire, dans le monde, une cause transcendante. C'est-à-dire que nous, vivre dans une vie horizontale, terre à terre, de manière plus ou moins radicale, cette cause-là de l'incarnation du Fils, de sa mort et de sa résurrection, ont placé dans le monde la possibilité d'une élévation, la possibilité, la voie d'une transcendance. Et en cela, le Fils est le médiateur pour nous de cette transcendance. Alors bien sûr, l'élévation n'est pas que, vous allez me dire, on peut s'élever même si on ne croit pas en Dieu, et heureusement, je vous dirais, bien sûr, la sagesse philosophique ou d'autres sagesses orientales permettent de s'élever au-delà de ce qu'on est. Mais dans le discours de la foi, il y a cette élévation possible, cette cause transcendante que dans la foi on attribue à Dieu et à son Fils Jésus-Christ. Donc la résurrection, c'est un événement transcendant dans le temps des hommes. Et c'est notre point 2. Alors quand on dit qu'un événement transcendant, que la résurrection est un événement transcendant, eh bien, cela signifie que cet événement transcendant ne provient pas du monde. Que le monde n'est pas sa cause. Et si le monde n'est pas la cause de cet événement, alors c'est que cet événement existe en dehors du recours des hommes. Ça ne relève pas de leur capacité. C'est arrivé. Peut-être même en dépit d'eux, mais c'est arrivé. C'est pour ça que l'on dit que la résurrection est un acte transcendant parce que c'est un acte de Dieu lui-même, qu'il a posé lui-même dans le monde, à partir d'un événement qu'il n'a pas voulu, à partir d'une condamnation qui n'était pas de son fait. Et c'est donc parce que cet événement vient de Dieu que l'on dit qu'il est transcendant. Alors, dans la chronologie des faits de la Passion, qui nous amène au matin de Pâques, parce que, voilà, on arrive quand même au matin de Pâques, eh bien, il y a le tombeau vide, la question du tombeau vide. Question parce que le tombeau vide ne peut pas être à lui seul, ne peut pas tenir à lui seul de preuve de la résurrection. On pourrait dire qu'il a à voir avec la résurrection, et pourtant, le tombeau vide n'est pas la preuve de la résurrection. En revanche, le tombeau vide va indiquer que quelque chose s'est produit. Quelque chose est arrivé. Et parce qu'il indique que quelque chose est arrivé, alors il n'est pas la preuve de la résurrection, mais il est le signe de la résurrection. Le signe. En tout cas, le premier signe, pas le signe en tant que tel, mais en tout cas le premier signe de la révélation. Parce que, dites-moi.
Résurrection.
Ah, qu'est-ce que j'ai dit ?
Révélation.
Oh, pardon. Oui, merci. De la résurrection. Alors, les autres signes, eh bien, on va voir qu'il y a les apparitions. Les apparitions de Jésus-Christ. Alors, les apparitions, on ne peut pas les assimiler à des signes, puisque c'est lui-même qui apparaît. Et c'est bien Jésus-Christ qui apparaît au matin de Pâques. Mais on peut dire que les apparitions de Jésus-Christ font partie des signes tangibles, c'est-à-dire des signes sensibles. On peut le toucher, on peut le voir. Ce sont ces signes tangibles de la résurrection. Et donc, ces signes tangibles vont permettre aux témoins de faire une expérience inédite. Déjà, la première expérience, c'était pour les apôtres et les disciples, c'était d'être en relation directe avec le Fils de Dieu, sans le savoir ou en le proclamant par cette action bienveillante de l'Esprit. Mais on voit bien que là, ils font une rencontre inédite, puisqu'ils font la rencontre avec le ressuscité lui-même, avec celui qui, 3 jours avant, était cloué sur le bois de la croix et qu'on croyait mort et qu'on croyait même que tout était terminé, puisqu'ils s'enfuyaient tous de Jérusalem où ils se cachaient au Cénacle, enfermés. Et puis voilà qu'ils font cette rencontre inédite, donc une expérience inédite avec le ressuscité. Mais le tombeau vide, pour revenir au tombeau vide, bien la première constatation, c'est que le corps a disparu. La pierre a été roulée et le corps a disparu. Et ça, c'est un événement déjà, que le corps de Jésus ait pu disparaître lorsque les femmes arrivent au matin de Pâques et qu'elles voient la pierre rouler et que le corps a disparu. Ça, c'est un événement pour elles, et un événement significatif. Donc, ce qu'on pourrait dire, c'est que la résurrection, la mort de Jésus et sa résurrection, on a, sans me souvenir qu'à un cours, on avait parlé du lien entre le fait et l'événement. Dans la foi, c'est un événement. Et puis le tombeau vide, c'est un fait. Jésus était mort, on l'a enseveli dans ce tombeau, et le tombeau est vide. Donc c'est un fait, mais qui dans la foi va devenir un événement. C'est pour ça qu'à un moment donné, on doit quitter l'idée de preuve par rapport au tombeau vide, et plus le considérer comme l'événement de quelque chose qui s'est produit. Parce que même si dans l'Ancien Testament il y avait des exemples, des récits de résurrection, personne, parce que même la résurrection de Lazare ne peut pas être considérée au même titre que celle de Jésus. Hein, on en avait parlé aussi, Lazare, il reprend sa vie, il reprend le courant de sa vie. Ce n'est pas le cas du Christ. D'ailleurs, il n'est pas reconnu immédiatement. Donc la résurrection, pour résumer ces points, il faut retenir que c'est un événement transcendant parce qu'il s'origine en Dieu lui-même. Et donc voilà ce que dit Balthazar dans son premier volume de son œuvre qui s'appelle La Trilogie, et son premier volume s'appelle Apparition. Il dit « Dieu se présente lui-même et s'explicite lui-même. Et ce faisant, il insiste sur le fait qu'il ne peut s'agir d'un événement symbolique, mais bien de la réalité de Dieu le Père incarnant le Fils et le ressuscitant au matin de Pâques. L'événement de la résurrection manifeste en elle-même, oui c'est cela, par le ressuscité, Dieu lui-même. » Donc vous voyez, Balthazar, il insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas d'un événement symbolique. On n'est pas dans le récit mythique d'un événement passé qui aurait ressurgi à l'époque de Jésus. Donc l'événement de la résurrection va manifester en elle-même Dieu lui-même, mais par le ressuscité. Donc voyons cette résurrection au matin de Pâques. C'est le point 1-1. Ah bon ? J'ai dit 1-1 moi dans mon... Bon. Bon, alors je ne vous donne plus les numéros, je ne donne que les titres, ce sera plus sûr.
Excusez-moi, mais les textes, vous dans cette feuille ou pas ?
Non, il n'est pas. La figure du Christ ressuscité, ce n'est pas une figure totémique. C'est une figure qui se fait connaître au matin de Pâques. C'est une figure qui reconnaît l'autre, mais c'est une figure qui est reconnue. C'est-à-dire que le Christ ressuscité, il voit et il est vu. Et c'est parce qu'il y a cet aller-retour de reconnaissance, je te vois et tu me vois, que la figure du Christ ne peut pas être totémique. Vous voyez qu'elle peut pas, ça ne peut pas être une figure vide de sens. Ça ne peut pas être un signe, il ne peut pas être réduit à un signe. Et ça, Balthazar, il a particulièrement travaillé cela, la figure. Donc, la résurrection au matin de Pâques, et je ne dis pas le numéro parce que je m'étais trompée. On était à 1-2 ou 2-1 même. 2-1. Très bien. Ça y est, je l'ai envie. 2-1. Bon, faudrait que je vois pourquoi je me suis trompée, mais c'est pas grave. Donc, à la résurrection au matin de Pâques, eh bien, personne n'est témoin de la résurrection. Il n'y a pas eu de témoin, de la même façon qu'il n'y a pas eu d'acte, et qu'il n'y a pas eu de témoin de l'acte d'incarnation. Ce n'est qu'après la rencontre avec le ressuscité, que les disciples et les apôtres ont pu comprendre quelque chose de l'incarnation. Vous voyez, c'est même pas de la résurrection, mais c'est après. C'est en raison de la résurrection qu'ils ont pu comprendre quelque chose de l'incarnation. Ils ont donc été obligés de relire les événements. Ils ont fait une relecture de la vie de Jésus. Mais ils ont fait cette relecture à la lumière de la résurrection, ce qui change un petit peu. Ils n'ont pas fait que relire les paroles que Jésus avait dites. C'est parce qu'il est ressuscité qu'ils ont relu sa vie. Donc ils ont fait un retour sur l'événement Jésus-Christ. Et cet événement ne concerne pas que la résurrection. Parce qu'elle permet aussi de comprendre toute l'histoire de la révélation. La résurrection permet de comprendre toute l'histoire de la révélation. Et donc la révélation se comprend à partir de ces deux événements, incarnation, résurrection. Donc on va parler du point un peu plus, le point du tombeau vide, même si je l'ai déjà un petit peu introduit. Le tombeau vide et puis ensuite les témoins au tombeau. Parce que bien sûr, il y a des témoins au tombeau. Donc le tombeau vide, c'est le signe d'une disparition. La pierre est roulée, le corps a disparu. Donc le tombeau montre d'abord, avant de parler de résurrection, il montre d'abord une place vide. Et il montre l'absence du corps. Mais je vous disais, c'est pas parce qu'il est vide qu'il est en lui-même une preuve. Ce n'est pas en soi une preuve de la résurrection. Pour parler de preuve, il faut aller plutôt du côté des témoins. C'est-à-dire des témoins oculaires. C'est-à-dire ceux qui ont vu et qui ont été en présence du ressuscité. Parce que ces témoins ont fait l'expérience de cette rencontre inédite. La rencontre de celui qu'on croyait mort et qui est maintenant vivant. Donc je vous propose qu'on regarde ce qui est dit des témoins dans les récits évangéliques. C'est notre point suivant sur les témoins au tombeau. Donc les premiers témoins, ce sont les femmes. Alors la place des femmes comme témoins au tombeau, elle est paradoxale en fait. Parce qu'elle est à la fois primordiale, c'est les femmes qui étaient là, elle est même fondamentale, on pourrait dire qu'elle est fondamentale, et en même temps, elle est mineure. Voilà, c'est ça le paradoxe. Voilà. Elle est primordiale et en même temps, elle est mineure par rapport à celle des hommes.
C'est quoi maintenant ?
Mais on va expliquer un peu ça parce que, voilà. Elle est primordiale parce que les femmes ont suivi Jésus jusqu'au soir de sa mort et de son arrestation et de sa mort. Et elles ne l'ont jamais renié. Elles sont celles qui ont vu le crucifié. Et elles sont celles qui ont assisté à son ensevelissement. Ce qui n'est pas le cas des hommes, du groupe des hommes de Jésus. Elles ont été les premières aussi à voir que la pierre avait été roulée. Elles sont des témoins, mais les témoins de la première heure. Elles sont les premières aussi à avoir rencontré le ressuscité. Même si elles ne le reconnaissent pas au départ, pensant que c'est le jardinier ou quand elles voient deux anges. Et puis elle est primordiale, parce que ce sont les premières à avoir annoncé la résurrection. Et bien malgré cela, malgré tout cela, et bien leur place est mineure. Parce que leur témoignage n'a pas été reçu au même titre que celui des apôtres. Puis la raison est simple en fait, parce que quand on regarde le droit juif de l'époque, eh bien, les femmes n'étaient pas capables de témoigner. Donc le témoignage d'une femme n'avait pas de valeur. Dans la société du temps de Jésus, les femmes et les enfants n'avaient pas de statut. Quand on n'a pas de statut, on n'a pas d'existence. Mais malgré cela, elles ont été présentes, elles ont vu et elles ont parlé. Et ce qu'elles ont dit a eu valeur d'annonce. Et ça, c'est important. Ça, c'est fondamental. Parce qu'elles n'ont pas simplement témoigné, si elles n'étaient pas capables de témoigner pour le droit de l'époque. Il n'empêche que ce qu'elles ont dit a une valeur d'annonce. Et c'est cette annonce-là qui est primordiale. Alors, la question c'est, est-ce qu'on priorise les femmes par rapport aux autres? Est-ce que c'est la question? En fait, ça ne nous intéresse pas trop, en fait, de savoir est-ce que les femmes étaient premières par rapport aux autres, aux hommes. L'évangéliste qui a donné une place, une vraie place aux femmes, c'est Matthieu. Matthieu, il faut relire l'évangile de Matthieu. La question c'est, quelle place on donne aux femmes par rapport à celle des hommes? Ce que nous dit l'Écriture, ce que nous dit l'Évangile, c'est que, et ce que nous dit Matthieu, c'est que ce qui est important, ce n'est pas de prioriser la place, mais c'est de voir qu'il y a une diversité de témoignages et que les témoins sont divers. En fait, c'est ça qui est important. Les femmes ont annoncé, elles ont témoigné, les hommes ont témoigné, ont annoncé. De la même façon, la diversité du témoignage fonde aussi la vérité de l'événement. Parce que s'il n'y avait eu que les hommes pour témoigner de cela, on aurait pu dire, il y a un parti pris, c'est leur parti pris de Jésus, ou que les femmes, c'est le parti pris de Jésus aussi, peut-être d'un point de vue sentimental ou affectif. Oui. Alors que là, il y a presque une unité dans la diversité des témoignages. Et donc l'unité dans la diversité des témoignages fonde aussi l'événement de la résurrection, c'est-à-dire fonde le témoignage de la résurrection. Donc tout le monde avait une place dans le groupe de Jésus. Et concernant les femmes, l'enjeu tient plutôt au fait qu'elles aient été présentes ce matin-là. C'est ça qui est important, elles étaient là. Non seulement elles étaient là, mais elles ont parlé. Contrairement à la finale de Marc, hein, vous vous souvenez, hein, ça se finissait au départ sur la frayeur des femmes. Non, elles ont été là, elles ont été témoins et elles ont parlé. En dépit d'une parole qui aurait pu ne pas être reçue. Cette parole-là, elle a été reçue. Et c'est cela qui leur confère une place en fait. Et une vraie place. Parce qu'en fait, on s'en fiche de savoir la première ou la seconde, globalement. Même si c'était une place seconde. Mais c'est pas parce que c'est une place seconde que c'est une place qui n'a pas d'importance. Elle a son importance. Et elle est d'importance. Parce qu'elles ont eu une mission. Et la mission, c'était d'annoncer. C'était la première annonce. Et en plus, elles ont une place dans la figure féminine de l'Église, même si elle est attribuée à Marie. Il n'empêche que cela contribue à la figure féminine de l'Église. Alors Jean est le seul, j'avais noté, Jean est le seul qui au matin de Pâques, c'est Nicodème qui apporte les aromates pour l'embaumement du corps. Ce ne sont pas les femmes, hein, c'est le texte Jean 19, verset 39-40. Nicodème vint aussi, lui qui naguère était allé trouver Jésus au cours de la nuit. Il apportait un mélange de myrrhe et d'aloès d'environ 100 livres. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'entourèrent de bandelettes avec des aromates, suivant la manière juive d'ensevelir. Donc voyez dans les récits, là ce sont les hommes qui ont embaumé le corps de Jésus et qui l'ont enseveli. Mais vous voyez la différence. Les femmes viennent le lendemain pour les autres évangélistes. Elles viennent le lendemain pour faire ces gestes-là, mais le corps a disparu. Donc la fonction de la présence des femmes au matin de Pâques, au tombeau devant la pierre roulée, c'était de dire « Les aromates ne servent à rien puisqu'il est vivant. Ce n'est plus le mort, il est vivant. » Et ça, c'est à elle en quelque sorte que cela incombe. Chez Mathieu, la question des aromates n'est pas précisée. Et c'est pour ça que Mathieu donne une place aux femmes. Au contraire, la question des aromates n'est pas précisée, mais ce qui est précisé, c'est le fait qu'elles soient les premières à aller annoncer aux disciples. Voilà.
Excusez-moi, je n'ai pas très bien compris l'histoire des aromates. Dans le texte 2,
oui.
Ce sont bien Jean et Nicodème qui...
Ils prennent le corps de Jésus. Oui, c'est ça. Ouais.
Et avec les aromates.
Avec des aromates.
Et vous dites que, aussi que les femmes disent que ce n'est pas la crème parce qu'il est vivant. Alors,
Non. Les femmes, dans le récit chez Jean, ce sont les hommes qui ont la charge d'embaumer le corps, et c'est ce qu'ils font, puisqu'ils nous disent, Jean nous dit, ils prirent donc le corps de Jésus, l'entourèrent de bandelettes avec des aromates, suivant la manière juive d'ensevelir. Donc ça, mais chez les autres évangélistes, eh bien, on retrouve les femmes qui viennent au matin de Pâques pour apporter les aromates.
D'accord.
Donc il y a des différences dans les récits, en fait.
D'accord.
C'est ça qui est important dans les...
Mais c'est peut-être parce que ce n'est pas le même temps. Là, on parle de la mort, du
oui.
jour de la mort de Jésus.
Oui,
et les femmes, c'est...
Au matin de Pâques, exactement, voilà. Exactement. Mais ça veut dire que Jean, l'évangéliste Jean, n'incombe pas aux femmes la fonction des aromates et de l'ensevelissement du corps. C'est ça la différence qu'on peut noter. Et que chez Jean, c'est plutôt aux hommes que ça incombe de faire ça. C'est juste une différence dans le récit. Mais même, vous l'avez noté, même une différence de chronologie. Puisque là, on est au matin de Pâques chez les autres évangélistes, alors que là, on est au moment de l'ensevelissement du corps. Voilà. Et donc, par contre, chez Matthieu, la question des aromates, vous voyez la différence, là, elle n'est pas précisée du tout. Il n'est pas du tout question d'aromates. C'est plutôt le fait que malgré leurs craintes, parce que bien sûr, elles sont remplies de frayeur, eh bien, elles vont annoncer, annoncer le fait que le tombeau soit vide. Mais c'est pour ça que de leur part, on ne peut pas considérer cela comme un témoignage. Voyez, on n'est pas encore dans le témoignage de la résurrection, mais dans l'annonce de ce qu'elles ont vu et de ce qu'on leur a dit. Chez Jean, le jardinier allait dire à mes disciples, c'est pour ça que ce n'est pas le témoignage, c'est une annonce, elles ont vraiment une fonction d'annoncer. Marie de Magdala vient annoncer aux disciples, j'ai vu le Seigneur et voilà ce qu'il m'a dit. Donc, elles annoncent les paroles que Jésus leur a dit devant cette pierre roulée au matin de Pâques. C'est dans Jean chapitre 20, verset 28. Matthieu, lui, va confirmer le récit. Et il va confirmer la fonction de messagère des femmes. Vous voyez, ce n'est pas tout à fait le témoignage. Parce que dans le récit de Matthieu, c'est d'abord un ange. L'ange du Seigneur qui ordonne aux femmes d'aller annoncer que Jésus est ressuscité. Et puis après, c'est le ressuscité lui-même qui les charge d'aller annoncer à ses frères, nous dit Matthieu 28, 10, à ses frères qui le verront en Galilée. Voilà le texte. Après le sabbat, au commencement du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie vinrent voir le sépulcre. Et voilà qu'il se fit un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme neige. Dans la crainte qu'ils en eurent, les gardes furent bouleversés et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Soyez sans crainte, vous. Je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il gisait. » Puis vite, allez dire à ses disciples, « Il est ressuscité des morts et voici qu'il vous précède en Galilée. c'est là que vous le verrez. Voilà, je vous l'ai dit. Quittant vite le tombeau, avec crainte et grande joie, elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit « Je vous salue ». Elles s'approchèrent de lui et lui saisirent les pieds en se prosternant devant lui. Alors Jésus leur dit « Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Donc l'apparition du ressuscité vient confirmer l'annonce et va être en même temps la confirmation du message de l'ange. D'abord les anges et ensuite le ressuscité. Oui, dites-moi. Mais là, ce qu'on pourrait dire à propos de l'apparition du Christ ressuscité devant les femmes, c'est que bien sûr, les femmes, elles pourraient sembler vouloir confirmer le témoignage. Et c'est vrai d'une certaine façon. Enfin, on a parlé de cette subtilité entre témoignage et annonce. Mais en fait, ce qui est important là, c'est que le Christ, par ses apparitions, par son apparition au matin de Pâques, le Christ révèle par son apparition et ses paroles, parce qu'on ne dissocie pas les deux, ben, révèle la réalité de la résurrection. C'est cela qui est fondamental. Il s'est montré, il a parlé, il s'est fait reconnaître, parce qu'au début on ne le reconnaît pas, mais là il s'est fait reconnaître, et il parle. Et donc les femmes vont à leur tour parler. Parce que ce qui paraît déterminant, c'est la portée théologique de l'apparition. L'apparition de Jésus-Christ ressuscité est éminemment théologique. Parce que son apparition met en route, regroupe tous les fidèles et tous les proches de Jésus, tous les siens. La reconnaissance permet de faire tomber toutes les peurs. On a parlé des pèlerins d'Emmaüs. Ils s'enfuyaient de peur, ils quittaient Jérusalem parce qu'ils avaient peur. Et les pèlerins d'Emmaüs, ils n'ont pas du tout la priorité sur l'apparition de Jésus ressuscité. Puisque quand ils reviennent à Jérusalem, ils viennent annoncer, puis on leur dit, bah, c'est bien vrai, il s'est montré à Simon. Donc ils n'ont pas non plus la primeur, hein, finalement. Ils ne sont pas prioritaires dans l'annonce. Ils ont l'explication, ils ont l'ouverture... L'ouverture de l'intelligence. Voilà. Et avec le paradoxe qui fait qu'une fois qu'ils reconnaissent Jésus, au fait que Jésus fait la bénédiction, rompt le pain et leur donne, et c'est à ce moment-là qu'ils le reconnaissent. Et quand ils le reconnaissent, il disparaît. Donc vous voyez bien, la résurrection, ce n'est pas. On parle toujours des apparitions du ressuscité. Mais on doit associer à l'apparition, on doit associer la disparition du ressuscité. Parce que la disparition du ressuscité, elle a à voir avec la reconnaissance. Alors que l'apparition ne fait pas reconnaître d'emblée Jésus ressuscité. Donc il y a un lien indissociable entre l'apparition et la disparition, et que la résurrection, la manifestation, la forme que prend la manifestation de la résurrection, c'est une apparition, une disparition. Ce serait vraiment théologiquement ignorer ce pan-là de la liberté du ressuscité que de tronquer les fois où le Christ disparaît. Voyez, il ne fait pas qu'apparaître. Parce que la question de l'apparition, elle va mettre en difficulté l'interprétation, parce que s'agit-il d'un apparaître ou d'une apparition ? Vous voyez, dès l'instant où on substantive, une apparition, ben, ça peut être quelque chose de fantasmagorique, de voilà. Non. Le Christ ressuscité apparaît, et c'est parce qu'il apparaît dans la puissance de sa résurrection qu'il peut disparaître devant le regard des pèlerins d'Emmaüs. La résurrection a cette force-là. Et donc, on pourrait penser que le ressuscité, il agit en propre, c'est-à-dire qu'il exerce sa propre liberté. Il se montre à qui il veut se montrer. Il apparaît à qui il veut apparaître, auprès de qui il veut apparaître. Il se montre aux pèlerins d'Emmaüs, il chemine avec eux, il mange avec eux, il leur ouvre les Écritures, l'intelligence des Écritures, et au moment de la bénédiction, du pain rompu, il disparaît. Il est libre. Vous voyez, cette liberté du ressuscité, c'est une liberté qui lui appartient en propre.
Mais est-ce que la disparition permet une meilleure compréhension des apparitions ?
D'une certaine
façon. L'homme, c'est-à-dire Jésus est libre de faire ce qu'il veut, ça c'est d'accord, mais est-ce que les pèlerins d'Emmaüs comprennent mieux ce qui s'est passé à la disparition du Christ ?
Alors je ne sais pas s'ils comprennent mieux, mais en tout
cas. Pour nous, théologiquement, oui. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire ?
La disparition oui. Ne peut pas advenir s'il n'y a pas une apparition préalable. Ça paraît logique, mais vous avez raison. Seulement, on se dit, s'il y a une disparition, c'est qu'il y a une réalité de l'apparition, du ressuscité. Donc, ce n'est pas quelque chose de c'est pas une vision, c'est pas un apparaître et un disparaître. Voilà. Alors, est-ce qui rend crédible ? Parce que quand on parle de crédibilité, ce qui rend crédible, c'est le pour les pèlerins d'Emmaüs, c'est l'association de l'intelligence des Écritures avec le geste qu'ils ont déjà vu le Seigneur faire, enfin de son vivant. S'ils reconnaissent Jésus, le ressuscité, enfin, s'ils reconnaissent Jésus-Christ, parlons d'abord comme ça, s'ils reconnaissent Jésus-Christ, celui qui 3 jours avant était mort, c'est d'abord parce qu'ils ont déjà partagé un repas ou des repas avec Jésus. Et que Jésus étant le maître, il prend le pain, enfin dans toute famille juive, c'est le père de famille qui prend le pain, qui le bénit, qui le rompt, qui bénit la nourriture. Donc ils ont vu Jésus faire ce geste-là, ces gestes-là. Donc le geste, il a valeur de révélation pour eux. Mais cette révélation, elle n'est pas totale ou radicale juste à cause du geste. Elle l'est parce que préalablement, Jésus leur a expliqué les Écritures. C'est cela, en fait. Donc c'est l'association de la parole, encore une fois, et du geste, qui sont primordiaux dans la reconnaissance. Parce qu'ils ont vu Jésus faire ces gestes-là, alors ça ne pouvait être que Jésus. Ah, mais Jésus est mort, donc il est ressuscité. S'il est ressuscité, on doit repartir à Jérusalem pour l'annoncer.
Oui, c'est pas un peu la deuxième messe, en fait, puisqu'il y a ce schéma de la référence à l'Écriture,
ouais.
Hein, la première partie de la messe, on a la parole de Dieu, et puis après, l'Eucharistie. Et là, bon, c'est aussi ce qui s'est passé avec Emmaüs. Il y a deux temps forts dans dans cet événement, qui est la référence à la lecture à la Bible,
parole,
à l'Ancien Testament, et la rupture, le partage du pain, la consécration, le partage du pain.
Oui, pourquoi pas. La messe telle qu'elle est, elle est vraiment issue des premières communautés chrétiennes qui se retrouvaient, ils se retrouvaient ensemble, ils lisaient Ben, soit les lettres de Paul, soit les premiers textes de Marc, voilà les premiers évangiles, et dans le deuxième siècle, les évangiles étaient déjà tous rédigés, et qui partageaient le pain. Donc en fait, la messe, elle est construite sur ce schéma-là. Mais pourquoi pas ? Enfin, moi, je suis pas contre cette interprétation-là. C'est pas la seule, mais voilà, elle entre dans une... Pourquoi pas ? Mais bien sûr, bien sûr. Donc on revient bien sûr à l'idée, vous voyez, que le tombeau ne peut pas constituer à lui seul une preuve. Ce n'est pas le fait qu'il soit vide qui nous dit que le Christ est ressuscité. Le tombeau, il représente le terme, uniquement le terme de la vie. Et le terme de la mission de Jésus. C'est pour ça, avant la résurrection, on pourrait très bien se dire finalement, la mission du Christ est un échec, puisque ça se termine au tombeau. Mais au matin de Pâques, il en va tout autrement. Le tombeau n'est plus le terme. Le tombeau devient le commencement. Et c'est ça qui change. Parce que le tombeau vide au matin de Pâques n'a plus rien de commun avec les autres tombeaux. Il s'est passé quelque chose. Et il devient le commencement de quelque chose de nouveau, d'une présence nouvelle. Et c'est aussi pour ça que le ressuscité n'est pas reconnu. C'est le même et en même temps, ce n'est plus le même. Donc la fonction initiale du tombeau, elle-même, a changé. Elle n'a plus du tout la même fonction, ce n'est plus le lieu de la mort. Parce que le tombeau de Jésus devient le lieu de la vie. Et de la vie, avec un grand V, en tout cas une vie encore inconnue jusque-là. Même s'il savait qu'il y avait des résurrections. Donc le tombeau vide, quelle serait sa fonction ? Sa fonction, c'est d'abord d'opérer un choc, comme ça a été pour les femmes. Le choc, la peur, un choc pour ceux qui sont sûrs de trouver le corps de Jésus. Elles étaient sûres de trouver le corps, mais le corps a disparu, donc c'est un choc. Et donc l'absence du corps, si on dit que le tombeau vide ne constitue pas une preuve, l'absence du corps de Jésus n'en constitue pas une non plus. Pourquoi ? Parce que les femmes pensent que le corps a été volé. Donc c'est pas parce qu'il n'y a plus le corps qu'elles disent le Seigneur est ressuscité. Non, non, elles pensent que le jardinier a pris le corps ou qu'il a été volé, en tout cas qu'il a été amené ailleurs. Et donc tout cela, ça suscite de la frayeur et de la peur. Enfin, on imagine un peu quand même. C'est pour ça que la première finale de Marc se terminait sur la frayeur. Mais vous voyez bien, c'est pas possible. Ça peut pas se terminer sur le définitif de la mort, puisque le tombeau vide n'est pas le définitif de la mort au matin de Pâques. Alors voyons ce qu'en disent les évangélistes. Alors chez Luc, les femmes, elles ont le regard baissé. C'est intéressant ça. Elles ont le regard baissé, elles regardent par terre, et donc ça va provoquer la réaction des anges, parce que les anges leur disent, saisies de crainte, enfin on peut lire, saisies de crainte, elles baissaient le visage vers la terre, quand ils leur dirent, pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ? Il n'est pas ici, il est ressuscité. Donc chez Luc 24, chapitre 24, verset 5-6. Non, ça vous ne l'avez pas, c'est juste moi qui l'ai noté. Alors, Luc 24, les versets 5 et 6. Donc, elle regarde par terre, saisie de crainte, elle baissait le visage vers la terre, quand ils leur dirent, pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ? Effectivement, elle regarde par terre, donc vous voyez bien cette interprétation, ce qu'on pourrait lire, elle regarde vers la mort en fait, vers la terre. Donc, lorsque les anges disent « Il n'est pas ici, il est ressuscité », on est face à une première annonce kérigmatique. C'est pour ça que les femmes, elles annoncent. Voilà, c'est pas rien d'annoncer cela. Ça a valeur d'annonce kérigmatique. Et si on met ce récit-là en parallèle de l'ascension, où là ce sont les disciples et les apôtres à l'ascension, ben c'est l'inverse qui se passe. Parce qu'à l'ascension, les disciples restent les yeux fixés au ciel. Je lis, acte 1, verset 9-11. Donc au moment de l'ascension, à ces mots sous leurs yeux, il s'éleva, donc Jésus s'éleva, et une nuée vint le soustraire à leur regard. Comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que deux hommes, en vêtements blancs, se trouvèrent à leur côté et leur dirent, Jean de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Vous voyez, on a deux parallèles, c'est-à-dire que les femmes regardent vers la mort alors qu'en fait il est vivant, et les disciples regardent vers le ciel alors que Jésus n'est plus là. Il est déjà parti, donc il reste fixé les yeux vers... Donc ce Jésus, je reprends les phrases des anges, ce Jésus qui vous a été enlevé pour le ciel viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. Et donc on annonce bien sûr la Pentecôte, l'arrivée de cet esprit, l'arrivée du paraclet. Donc c'est en raison de la reconnaissance de celui qui était mort et qui se présente au matin de Pâques comme le vivant, que le tombeau vide ne peut pas constituer une preuve, à aucun moment, mais uniquement, et voilà, je leur dis, le signe que quelque chose s'est produit. Donc quand je vous parlais tout à l'heure de liberté de ressusciter, qui décide d'apparaître et qui décide de se soustraire au regard, eh bien le ressuscité se montre de lui-même. C'est là sa liberté. Il ne se montre pas lui-même, parce qu'il se montre lui-même, mais d'abord, il se montre de lui-même. Donc, il décide de se montrer. Et il fait le choix de se montrer à qui il veut. Et d'abord, aux gens de son groupe. Et donc, reconnaître Jésus ressuscité, et ce que disent aussi ce que dit aussi Jésus. Non, c'est pas Jésus qui dit ça, c'est l'ange dans Luc 24, chapitre 24, verset 7. Vous n'avez pas le texte. Où on peut lire, « Rappelez-vous comme il vous a parlé quand il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré aux mains des pécheurs, des hommes pécheurs, qu'il soit crucifié et que le troisième jour, il ressuscite. » Vous voyez ce « Rappelez-vous comment il vous a parlé. » On a déjà là, à la résurrection, des paroles qui mettent sur le chemin, qui là où aujourd'hui on en est, le faire mémoire. C'est-à-dire le rappelez-vous de l'ange, rappelez-vous comment il vous a parlé lorsqu'il était en Galilée, va mettre en œuvre dans la conscience des disciples et des apôtres, et aussi des premières communautés, le faire mémoire, c'est pas se souvenir de Jésus, mais faire mémoire de lui. Et donc le sacrement de l'Eucharistie, c'est le faire mémoire de la mort et de la résurrection. On ne se souvient pas, d'abord on n'y était pas. Donc on ne peut pas se souvenir de quelque chose dont on n'a pas été témoin. Mais de génération en génération, depuis le Christ ressuscité, on fait mémoire de cela. C'est pour ça que l'apparition de Jésus-Christ va préparer et va les préparer à la confession de foi. Et donc va les préparer au témoignage. Vous voyez, la reconnaissance de Jésus-Christ, elle n'est pas immédiate. Et je l'ai dit, puisqu'on ne le reconnaît pas au début. Elle se fait par paliers, elle se fait par degrés. D'abord le tombeau vide, le corps a disparu, on voit un jardinier, où on voit deux anges, il nous parle, on lui parle. Puis en fait, ce jardinier reconnaît Marie, il l'appelle par son prénom, alors Marie le reconnaît, alors elle va annoncer. Vous voyez, il y a des degrés dans l'annonce, il y a des degrés dans la reconnaissance. Jésus ne peut pas être connu immédiatement, parce que ce n'était pas possible. C'était pas imaginable que celui qu'on a vu crucifié sur le bois de la croix puisse être vivant 3 jours après. ça dépassait l'entendement et le raisonnable. Donc bien sûr que personne ne s'y attendait, et parce que personne ne s'y attend, alors on ne reconnaît pas Jésus le ressuscité. Jésus doit les amener petit à petit à se faire reconnaître, à le reconnaître. Et bien c'est pareil pour annoncer, pour témoigner. Jésus doit les amener au témoignage par ce « rappelez-vous comment il vous appelait, souvenez-vous, rappelez-vous ce qu'il vous disait ». Comme les pèlerins d'Emmaüs, nos cœurs n'étaient pas brûlants lorsqu'ils nous ouvraient les Écritures. Ils les connaissent, les Écritures, ils sont juifs. Ils les connaissent par cœur. Donc, cette reconnaissance, elle doit fonder, c'est sur cette reconnaissance que le témoignage de la résurrection se fonde. Sinon, l'annonce kérigmatique n'a pas de force. Et on voit bien que la force du kérigme, elle tient aussi à la Pentecôte, à l'esprit.
C'est pourquoi, là, que vous envoyez la force kérismatique.
Le kérigmatique, le kérigme. Le kérigme, c'est de proclamer que Jésus-Christ est vraiment ressuscité. C'est cela que l'on dit le matin de Pâques, il est ressuscité. Enfin, on est obligé de le proclamer.
C'est avec un temps.
Ah oui, kérigme, je vous l'écris. Ah, est-ce que j'ai de quoi écrire? Kérigme, oui. Ça vient du grec kérigma. Kérigme. Voilà. Kérigma. Kérigma, ça doit être comme ça. C'est kérugma peut-être. Kérugma. Alors attendez, je vais vous l'écrire comme il faut. Alors, le G, il est comme ça. Le M, il est comme ça. Et là, kérugma. Voilà. Donc quand on parle de kérigme, on parle d'annonce. C'est-à-dire, la foi chrétienne est basée sur cette annonce-là. Jésus-Christ est vraiment ressuscité. En face de l'apparition, il y a la disparition. Et donc toute la question, c'est de donner à la disparition une valeur théologique. J'ai l'impression que ça ne marche plus. Une valeur théologique. Alors, pas la même que celle de l'apparition, mais une valeur théologique. Comme si l'apparition et la disparition étaient les formes d'expression de la manifestation. Vous voyez, on s'est déplacé un petit peu. Je ne parle pas de la résurrection, je parle de la manifestation de la résurrection. La manifestation de la résurrection, ou alors je vais dire autrement, la résurrection se manifeste selon deux formes. Apparition du ressuscité, disparition du ressuscité. On est sur les formes d'expression. Et disant cela, on décortique théologiquement la manifestation de la résurrection. Donc l'apparition et la résurrection font partie du même mystère de résurrection. Et le mystère, déjà, c'est la victoire. C'est la victoire de la vie sur la mort. Voilà. Alors, bien sûr, on mourra tous. Hein. Jésus ne nous a pas dit qu'on ne mourra pas. Mais ce qui change, c'est ce que sera, dans l'espérance, cette vie dans l'existence de Dieu, où tout le monde est appelé à vivre. Après, ça c'est de l'ordre de la foi. En tout cas, la résurrection, elle rend visible l'action, parce que c'est aussi une action de révélation, du Père pour le Fils en vue du monde. C'est aussi un lieu de révélation. Donc si on ne dissocie pas l'apparition et la disparition dans ce même mystère qu'est la résurrection, eh bien les deux, apparition et résurrection, représentent ce que le Père, par le Fils ressuscité, donc on en vient toujours à cette dimension de médiation, eh bien va mettre à la disposition des hommes pour se révéler et rendre visible l'Esprit. Parce que rendre visible l'Esprit, ben c'est l'Esprit que les apôtres ont reçu à la Pentecôte. Vous voyez, on est rendu capable. On reçoit aussi l'Esprit, c'est l'Esprit de notre baptême que nous avons reçu. Et cet Esprit que les apôtres ont reçu à la Pentecôte va les rendre capables, en quelque sorte. Ben, peut-être les rendre capables. Les rendre capables d'annoncer, les rendre capables de témoigner, les rendre capables de surmonter leur peur, leur angoisse, d'être arrêtés à leur tour, d'être persécutés. Et de fait, à part Jean, ils sont tous morts suppliciés au nom du Christ. Donc on voit que l'Esprit leur a donné cette force de surmonter leur peur et que leur mort est pour nous aujourd'hui un témoignage. Alors c'est pas la mort qui est un témoignage, c'est le fait qu'ils aient engagé toute leur vie jusqu'à mourir pour le Christ qui est un témoignage pour notre foi. Mais ça, les apôtres, ils l'ont pas compris tout de suite, ils l'ont compris qu'après, en relisant tout l'événement. Donc la résurrection leur a fait vivre une expérience fondamentale, radicale pour leur vie de juifs à cette époque. Et en même temps, on voit bien qu'ils vivent pour la deuxième fois la rencontre avec Jésus. C'est cela. Ils ont d'abord rencontré Jésus de Nazareth, qu'ils ont confessé, enfin Pierre surtout, comme étant le Fils de Dieu. Est-ce que Pierre avait vraiment conscience de ce qu'il professait? Il l'a quand même abandonné au soir de son arrestation et de sa crucifixion. Donc voilà. Et voilà que pour la deuxième fois, il rencontre Jésus, mais Jésus, non plus Jésus de Nazareth, mais Jésus le Christ. Donc ils ont rencontré deux fois cet homme qui a bouleversé leur vie et puis finalement la face du monde. Hein, finalement, c'est à partir de la naissance de Jésus qu'on commence à compter nos années. Donc on voit bien que ce Jésus de Nazareth n'est pas juste un personnage historique, qu'il est un événement pour la vie et pour le monde. Mais un événement qui a valeur dans la foi et pour la foi. Et donc cette double expérience que font les apôtres dans cette double rencontre de Jésus Nazareth et Jésus Fils de Dieu mort et ressuscité, eh bien c'est une expérience par laquelle la croix vient en quelque sorte recouvrir le monde ancien. C'est-à-dire un monde nouveau est né à partir de la résurrection de la mort et de la résurrection du Christ. Voilà ce qu'on peut lire dans Deutéronome, hein, c'est dans les visions. « Je contemplais dans les visions de la nuit, voici venant dans les nuées du ciel, comme un fils d'homme, il s'avança jusqu'à l'ancien et fut conduit en sa présence. » À lui fut conféré honneur et royaume, et tous les peuples, nations et langues le servirent. Son empire est un empire éternel qui ne passera point, et son royaume ne sera point détruit. Donc la réalité de la croix, elle est aussi à comprendre à partir de ce qui la précède, à partir de cette histoire dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire à partir de l'histoire de la révélation. et donc de la manifestation de Dieu dans l'Ancienne Alliance. Parce que la mort de Jésus et sa résurrection viennent sceller une nouvelle alliance. C'est pour ça que je vous parlais de monde nouveau, sceller une nouvelle alliance. Donc par la résurrection du Christ, la mort est vaincue, en tout cas la mort comme signe d'anéantissement total, de non-espérance. Et puis ben, dans la foi, ben, ça reste une bonne nouvelle quand même. C'est ça, c'est une bonne nouvelle. Alors en conclusion, on peut dire, pour resserrer un petit peu tout ça, que la résurrection est la manifestation de la justice divine. On n'avait pas parlé de justice divine jusque-là, aujourd'hui. De la justice divine, mais ça je vous l'avais déjà dit, parce qu'à la condamnation humaine du Fils, le Père répond par la résurrection du Fils. La question qui se pose, qui s'est posée à l'époque et qui se pose peut-être encore à nous, c'est la manière dont par la foi, on est, et les apôtres ont été en mesure de recevoir et de faire l'expérience de cette rencontre avec le ressuscité et d'être sauvés. Pour nous-mêmes, comment on est aussi en mesure de recevoir cette résurrection par le sacrement de l'Eucharistie ou par la lecture de l'Écriture. Emmanuel Durand, qui est un théologien qui enseignait à l'ICP, écrit « La justice divine s'étend à tous les temps, mais passe par l'événement de la résurrection. » Vous voyez, c'est comme si la résurrection du Christ devenait atemporelle. Elle traverse, par le faire mémoire sacramentel, elle traverse les générations et traverse le temps. Donc cette rencontre est pour l'homme un événement à l'intérieur de l'événement de la résurrection. Il y a l'événement de la résurrection, mais pour chacune et chacun, c'est un événement personnel aussi, dans une rencontre personnelle. Et donc le caractère de cet événement est absolument unique. Unique pour l'histoire, pour le monde, et unique pour celle ou celui qui, dans la foi, professe la résurrection du Fils. Et donc le Christ s'est manifesté par des signes sensibles et visibles qui sont propres à la manifestation elle-même et qui en sont l'expression. Mais rien ne pourrait être annoncé sans la reconnaissance par la foi et sans le témoignage des témoins de la manifestation. La reconnaissance par la foi de la résurrection détermine et vise une réalité qui est la réalité du kérigme. Vraiment, ontos en grec, vraiment, le Seigneur est ressuscité et il est apparu à Simon. Voilà, Luc 24, 34. C'est pourquoi le témoignage ne s'appuie pas uniquement sur l'apparition, parce que ce serait quand même un peu réduit. Réduire la résurrection à l'apparition, ce serait un petit peu contraint et réducteur. Mais la résurrection, le témoignage de la résurrection, s'appuie sur la présence vivante du ressuscité. C'est lui, il témoigne de lui-même qu'il est ressuscité. Ce n'est pas les apparitions de Jésus. C'est lui, c'est sur lui que se fonde la foi de l'Église, la confession de foi en Jésus-Christ, mort et ressuscité. Donc ce n'est pas le tombeau vide. Voilà. Ce n'est pas l'absence du corps. La résurrection, elle est témoignée par le Christ lui-même. Rappelez-vous, allez dire à mes disciples que je les retrouve en Galilée, c'est cela. Ce sont sur les paroles attestées, la résurrection, elle est attestée des paroles de Jésus ressuscité lui-même, du ressuscité lui-même. Voilà.